Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors nous allons cette semaine nous intéresser, avant d'aller voir une histoire incroyable mais vraie à Périgueux de Martine Ballou, que je salue au passage, et donc on va s'intéresser à Michel Carcenac avec Braconnier d'eau douce et autres nouvelles. Alors, ce livre n'est pas très récent. Il est édité par les éditions du Hérisson à Belvès en 2002. Et il y a une quatrième de couverture de Denis Nidos pour le journal du Périgord. Denis Nidos, que je salue également. Alors Braconnier d'eau douce et autres nouvelles de Michel Carcenac. Alors, qui était Michel Carcenac? Donc, Michel Carcenac, voici qu'il était, comme il se décrit lui-même, « Je suis né à Périgord Noir en 1925 de parents périgordais, et sauf pendant mes études et une incursion dans la marine marchande, je n'ai pas quitté mon village natal. Après 45 ans de médecine de campagne, la retraite m'a accordé le temps d'écrire. Pendant 35 ans, j'ai été président de clubs sportifs, aéroclubs, clubs de judo, clubs athlétiques, avec ses branches de marche et de course. J'ai aussi été pilote d'avion et coureur à pied de grand fond. La photographie, prise de vue et laboratoire a toujours été une de mes passions. Avec les amis que nous avons créés et organisé la fameuse course à pied, les 100 km du Périgord Noir qui se déroule autour de Belvès, c'est mes souvenirs sont bons. Alors mon premier ouvrage, Périgord d'Antoine Carcenac, est un recueil et un commentaire des photos prises par mon père Antoine dans les années 1900. Puis j'ai écrit un livre sur ma jeunesse, sur mon engagement dans la résistance, dans le maquis, un bon récit d'aventure, pas toujours drôle, Les combats d'un ingénu, c'est le titre de ce livre. Mes recherches généalogiques sur ma famille m'ont fait remonter à la migration des Rouergas vers le Périgord à la fin de la guerre de Cent Ans. Alors pourquoi les gens de la montagne ont-ils migré, dans quelles conditions, quel était l'état des lieux en Périgord, un roman mené au pas de charge dans un contexte historique fouillé. Le roman du Suaire, à la fin du XIVe siècle, dévoile la façon dont les moines de Cadouet ont volé aux Toulousains le Saint-Suaire. Et par la même occasion, je montre les pillages et les exactions des petits seigneurs autour de Bergerac. Une histoire de moines et de bandits. Alors, le livre suivant, Les braconniers d'eau douce, est un recueil de savoureuses nouvelles du sud-ouest, bien trempées dans les eaux de la Dordogne. Alors, il y a... comment je peux dire, un prologue à ce roman. C'est un roman, comment je peux dire, il y a quand même quelques bonnes histoires. Alors voici le prologue, une plongée de 4 années dans le Moyen-Âge périgordais pour écrire le chemin de Chamboulock et le roman du Suaire, c'est suffisant, il me fallait changer d'époque. Mes livres sont la mémoire du Périgord, je n'irai pas courir ailleurs, il y a suffisamment de bonnes choses à dire sur notre pays. Les histoires qui suivent m'appartiennent et m'ont été racontées souvent par des amis qui tenaient à ce qu'elles soient écrites et ne se sentaient pas capables de le faire. On ne passe pas facilement de l'oral à l'écrit et inversement. Ce sont deux mondes différents, évidemment. La mémoire transmise oralement est un arbre qui, tous les jours, perd quelques feuilles. Plus tard, les héritiers n'auront plus qu'un tronc desséché qui disparaîtra. Le plus souvent, ce sont des personnes d'un certain âge qui m'ont raconté des tranches de vie avec ferveur, sachant que le papier est l'unique moyen de conserver à jamais leurs souvenirs. Elles savent que l'amour les guette et le désir les tient de faire écrire leur histoire. Alors, pour beaucoup, écrire ou faire écrire ses aventures personnelles, c'est passer la postérité d'un livre tiré à des milliers d'exemplaires. Il en subsistera bien quelques-uns qui survivront des siècles, dans une bibliothèque ou au fond d'un grenier. Au fond d'un grenier, ça arrive qu'on en trouve. Hein. Alors l'écriture est le moyen de sauvegarder la mémoire d'un pays. Et si je n'avais pas raconté l'odyssée des 12 jeunes périgordaires voyés à l'attaque de 2500 Allemands à l'île d'Oléron, cet épisode historique n'aurait pu exister puisque les publications officielles avaient décidé de l'ignorer. La mémoire est volage, et si elle n'est pas écrite, mes amis m'ont confié leur histoire, et j'aurais mis en forme qu'ils soient remerciés de m'avoir pris comme secrétaire. Voilà, alors, il y a bien sûr beaucoup d'histoires, comme je le disais au début, et il y en a un qui s'appelle Braconnage en Bécède. Alors, la Bessette, c'est une forêt qui n'est pas très loin de Belvès, hein, qui est assez importante, où on peut facilement se perdre si on ne connaît pas les lieux. Alors, braconnage en Bessède. Le plateau de la Bessède, entre Couze et la Dordogne, fut un refuge pour les paysans révoltés, pour les maquisards, Jacques le Croquant s'y cacha un temps. De nos jours, on part en Bessède pour ramasser des girolles et des cèpes, découvrir des fleurs rares, comme certaines ancolies ou des orchidées. On va rechercher le calme, courir ou se promener. Certains se baignent dans l'eau verte d'un lac suspendu, enserré dans la forêt, avec une large échappée sur les collines qui bordent la Dordogne. Les amateurs d'histoire et de recherche de trésors fouillent et promènent leur poil à frire autant autour du camp de César et des ruines du village de Soubartel, heureux quand ils trouvent un fer à cheval rouillé. Alors, le camp de César, c'est un camp romain, soi-disant, peut-être que je ne sais pas si César y est venu, mais ça s'appelle le camp de César et l'on peut y aller chercher avec une poêle à frire. Alors, pour les pilotes d'avions légers, c'est un paradis qui les attire et les retient, un lieu où leur passion s'exprime, où les moteurs rompent sans gêner personne, où le brouillard est rare, ils sont heureux entre copains, et si la nuit les oblige à poser leur avion, le vol continue autour d'un pot. Alors voilà, ça c'est une bonne formule, un bon pot, après quelques heures de vol, c'est pas mal. Alors quelques autres sont des fous de la forêt, passionnés par les arbres, ils ont une âme de pionnier, ils se sont emparés de terrains désertiques où l'on ne pouvait pénétrer, ont supprimé les ronces et les ajoncs, créé des pistes, creusé des lacs pour les sangliers, les cerfs, les biches, les chevreuils, les hérons, les renards, les grues et tous les échassiers qui veulent s'y baigner, s'y nourrir, et aussi pour les pompiers. Ben oui, le mare d'eau, c'est quand même très bien, je connais un peu la Bessède, et il y en a quand même assez importantes dans lesquelles on peut puiser. Alors c'est forestier, on parle de la lecture, on se met planté, éclairci, et la guée éclaircie de nouveau, entretenu les pistes, cassées par le passage des roues, des vieilles tuiles, ils ont créé une magnifique forêt, mais la tempête a jeté bas le résultat de leur travail, avant qu'ils ne puissent en tirer un profit. Ils sont remis au travail, une deuxième fois avec l'assurance de ne jamais couper un seul arbre avant 50 ans. 50 ans, ça dépend des arbres, mais pour des chênes, par exemple, c'est déjà un bel arbre. Alors, ce plateau est un château d'eau qui alimente de nombreux ruisseaux qui ont taillé leurs vallons dans l'argile pour rejoindre la Dordogne. Une forêt est un terrain privilégié pour les braconniers, mais je n'ai jamais éprouvé l'attrait pour les chasses ou le braconnage du gibier à poil ou à plume. Pour les poissons, c'était autre chose. Il m'est arrivé de me rendre en Bessette de nuit pour braconner en compagnie d'un ami. Je peux l'avouer, il y a prescription. Autour de 1960, les ruisseaux regorgés d'écrevisses et de petites truites à la chair ferme et savoureuse, les pesticides les ont fait disparaître. Les écrevisses attrapées à la main, sous les souches, les truites ne bougeaient pas que dans le faisceau de la lampe à carbure, mais elles s'enfuyaient quand la main touchait dans l'eau. René, le maître de l'acier, avait forgé une minuscule pointe de harpon dont la tête se vissait sur la tige de bambou d'un mètre environ. À l'autre extrémité, attaché un élastique taillé dans une chambre à air de vélo, ben, rien se perdait, on servait un peu de tout. Alors je passais la boucle de caoutchouc entre le pouce et l'index, et en tirant le bambou, je tendais le ressort. Il suffisait de viser et de relâcher le bambou pour que la flèche file à vive allure et embroche le poisson. Voilà. Autrement dit, on appelait ça autrefois, je crois, la pêche à la fouisse. Voilà. Bon, ça c'est une histoire peut-être quand même de notre temps. Alors il y a aussi une autre histoire qui s'intitule C'était pressé. Alors mettre une neige depuis le 1er février en 1956 sur les routes, deux chevaux arrivaient à passer. Quand elle dérapait, le talus de neige la renvoyait dans le droit chemin. Elle était presque la seule à circuler. Alors, 1956, je me rappelle, effectivement, je crois que la neige à Sarlat est restée pendant près d'un mois. Et c'est vrai que les villes n'étaient pas équipées quand même pour évacuer tout ce blanc qui arrivait. Alors le ciel, je reprends la lecture, un ciel d'un bleu laineux avait débarrassé les nuages par un vent glacial venu du nord, tant rêvé pour les sports d'hiver, mais sale temps pour un médecin de campagne en Périgord. Mes confrères de la montagne avaient l'équipement convenable, ils étaient habitués. Un original avait même déchiré deux traîneaux. Ici, sur le sol gelé, la neige allait tenir un mois. Mais c'est ce que je disais, sur les routes des vallées, elle était tassée, mais pas sur les chemins de ferme où l'on se rendait à pied. Par bonheur, le froid sec avait arrêté les épidémies qui, comme chaque année, avaient commencé à la mi-janvier, la montée jusqu'à l'église d'Orliac, et s'était faite en zigzagant à 2 mètres plus haut, la neige arrivait à hauteur des phares. Elle emportait une pelle, mais pour quel résultat? Quelques mètres dégagés en une demi-heure, ce n'était pas encourageant. Un deux chevaux n'est pas un chasse-neige. Quoique ça tient bien la route, hein, deux chevaux. Bon. Alors mon frère aboyait devant la voiture, l'insultait, ne comprenait pas qu'elle reste plantée là. Ne lui obéisse pas, des moutons auraient couru sa niche ambulante de brochet pas. Personne ne sortait des fermes alentour, les chiens ne répondaient pas aux miens. J'ai deviné, aplati devant le feu, dressant une oreille en faisant semblant de ne pas entendre. Ce n'était pas un temps à mettre un chien dehors, surtout un chien du Périgord, devrait-il se dire. Alors, soulagé d'avoir pu revenir en marche arrière jusqu'au parvis de l'église, j'abandonnais la pelle et la deux chevaux et parti escalader la colline. Mon Groenlander se roulait dans la neige, courait autour de moi, me hurlait sa joie, la neige épaisse entrait dans les bottes et ne fondait pas. Personne n'était passé sur la route, les seules traces étaient celles des lièvres et des oiseaux. Au village de Prat, le grand silence en ouvrant une porte, j'aurais été bien accueilli, mais je n'avais pas le temps de m'arrêter pour me chauffer. La Marie Conchou avait dit que c'était pressé. Puis elle avait raccroché le téléphone de la cabine. Sans préciser, j'ai entrepris d'escalader la pente raide de la colline en face. Berck se traînait, ne faisait plus le fou. Ses coussinets étaient rouges, brûlés par la neige. Avec une bande de crêpes, je confectionnais des chaussettes. Il n'a pas essayé de les arracher et m'a regardé avec reconnaissance. La ferme était sur le plateau, bien campée dans son champ de neige, la toiture blanche se fondait dans le paysage, les murs en grès rouge ou sombre arrêtaient le regard. Essoufflé par l'ascension, je tombais sur un des bancs du Cantou. Pendant que je vidais la neige de mes bottes, je jetais des sarments de vigne sur les braises. La Marie m'interpellait. « Eh bien, vous marchez plus vite que ça d'habitude, je vous ai appelé à 8h et il est presque midi. » Vous avez mis le nez dehors? Non, pourquoi? Je serais sorti, on ne peut rien faire. Pourquoi je serais sorti, on ne peut rien faire dans les terres? Les flammes éclairèrent l'aïeul qui me faisait face, assise elle aussi, dans le Cantou. Un balancement du tronc, d'avant en arrière m'inquiétait, je la saluais et demandais à sa fille si elle n'avait pas peur qu'elle tombe dans le foyer. Pensez donc, elle est là depuis la Toussaint, et s'il avait dû lui arriver quelque chose, Bon, alors, qui est malade, le petit? Personne n'est malade. Il me faut juste un certificat pour la mémé qu'elle ne peut pas travailler. Le maire a dit que ça pressait. Et voilà, et donc le médecin a fait tout ce chemin en voiture, même avec une chevaux. C'était quand même pas toujours très pratique. Alors, il y a beaucoup d'autres histoires qu'on verra, mais ma foi, un autre jour, comme par exemple Thérèse ou d'autres, et je disais donc que la photo de cam de couverture était de Nidos. Et puis, on verra ça. Et puis, il y a aussi une explication de mots en occitan, la mélisse et le sol cendré. On en tirait des liens pour attacher les fagots. Alors, il y a le caveur et celui qui recherche les truffes. À gratter le sol, ce mot occitan vient du latin cavar, qui signifie creuser, extraire. Une cave est une pièce creusé dans le sol. Voilà. Mais écoutez, je vais arrêter là. Je vous souhaite une bonne semaine avec beaucoup de soleil et à très bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.